Good evening, brothers and sisters.
Bonsoir mes frères et sœurs, je suis Chad Webb, administrateur des séminaires et instituts de religion. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à vous, nos élèves du séminaire, et à vous tous qui vous êtes joints à nous pour cette émission mondiale commémorant 100 ans de séminaire. Nous sommes très reconnaissants de la présence de Thomas Monson qui préside cette réunion. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Henri B. Ehring et Dieter R. Uffdorf, conseiller dans la première présidence, ainsi qu'à Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres, qui vont nous adresser la parole. Sont également présents sur l'estrade d'autres autorités générales, membres du Bureau d'éducation de l'Église, présidents généraux des auxiliaires et administrateurs actuels et passés des séminaires et instituts de religion. Nous allons commencer la soirée en chantant le cantique Sauveur d'Israël, cantique numéro 5. Nous sommes reconnaissants de l'aide de Kristen Bodin, élève du séminaire d'Orem, qui dirigera la musique, et de Linda Margest, organiste du Tabernacle, qui nous accompagnera. Brock Smith, élève du séminaire de Fremont, Plain City, en Utah, fera la prière d'ouverture. Après la prière, nous verrons une courte vidéo évoquant l'histoire du séminaire.
Our kind and gracious Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, nous te remercions de cette journée, de toutes les bénédictions que tu nous donnes. Nous te remercions pour le séminaire, pour son influence dans notre vie. Nous te remercions du président Monson pour les Écritures. Bénis-nous pour que nous puissions appliquer les leçons que nous apprendrons aujourd'hui dans notre vie. Nous t'aimons beaucoup et nous te disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Merci Mildred. Est-ce que tout le monde a signé la feuille de présence? Je vois que vous l'avez fait. Que pensez-vous du passage que Mildred vient de lire? Comment le Seigneur a-t-il aplani vos sentiers quand vous vous êtes confié en lui et ne vous êtes pas appuyé sur votre sagesse? Oui, Lydia?
Quand je ne suis pas sûre d'une décision, quand je fais confiance au Seigneur, j'arrive toujours là où il faut.
Mildred?
Je crois aussi que parfois, le Seigneur a en vue quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons envisager.
Oui, c'est vrai. J'aime le passage qui dit « Reconnais-le dans toutes tes voies ». Comment est-ce que nous le faisons?
En 1980, j'ai été appelé à servir comme commissaire à l'éducation. Je me souviens que le sentiment d'incompétence qui a accompagné cet appel était écrasant. Le système d'éducation de l'Église était passé de 70 élèves en 1912 à plus de 192 000 et 9 000 enseignants. Comment allais-je aider un si grand nombre? Au début de cet appel, quelqu'un m'a remis un petit registre de présence. C'était celui du premier cours de séminaire enseigné dans l'Église en 1912. Ce premier cours avait lieu dans un petit bâtiment en face du lycée de granit à Salt Lake City. Dans ce registre de présence figurait un nom que je connaissais, celui d'une jeune fille qui avait 16 ans en 1912. Elle était l'une des nombreuses élèves qui apprenaient l'Évangile. Elle s'appelait Mildred Bennion. L'instructeur de ses tout premiers élèves du séminaire était Thomas Yates, diplômé de l'Université Cornell, qui, l'après-midi, se rendait à cheval de la centrale électrique de Murray à ce petit bâtiment en face du lycée Granit pour aider ses élèves à connaître les Écritures et à faire confiance au Sauveur. Mildred Bennion, Thomas Yates et beaucoup d'autres comme eux ont posé les fondations de la belle histoire du séminaire et de l'éducation de l'Église. Vous pouvez l'imaginer, depuis 1912, beaucoup de choses ont changé.
Il
s'est passé beaucoup de choses en 100 ans. En 1912, il y avait peu de jeunes inscrits au séminaire. Comme je l'ai dit, l'un d'entre eux était Mildred Bennion. 20 ans plus tard, cette belle jeune fille, Mildred Bennion, allait devenir ma mère. Elle était la fille d'un homme qu'on qualifierait aujourd'hui de non-pratiquant. Sa mère, ma grand-mère, s'était retrouvée veuve à l'automne de 1913. Quelqu'un d'attentif avait alors dû inviter Mildred au séminaire. Quelqu'un avait perçu comment ce programme bénirait chaque jeune homme et chaque jeune fille de l'Église. Cet instructeur du séminaire s'est suffisamment soucié de Mildred Bennion et a prié avec suffisamment de ferveur pour que l'Esprit implante l'Évangile dans son cœur. Il a apporté des bénédictions à des dizaines de milliers de personnes qu'il ne connaissait pas par le message qu'il a enseigné à cette jeune fille. Ce qui s'est passé dans cette première classe se produit aujourd'hui et continuera de se produire encore et encore, quel que soit le nombre que nous serons. Un individu sera touché. Il obtiendra ou renforcera son témoignage et des générations à venir en seront bénies.
J'aime le séminaire parce qu'il me donne la possibilité de m'éloigner du monde, d'oublier tout le stress.
C'est un programme fait spécialement pour les jeunes. Il est fait pour nous préparer à aller dans le monde chaque jour. Nous étudions cette source constante de lumière, les Écritures, et nous pouvons nous appuyer sur ces livres pour rester centrés sur notre but, qui est de nous rapprocher du Christ.
Il faut absolument lire les Écritures, les méditer, y réfléchir, pas seulement les lire, mais penser à ce qu'elles signifient dans notre vie, afin de permettre au Seigneur de nous instruire à travers elles.
Lire les Écritures m'a aidé à savoir que notre Père Céleste m'aime, qu'il me connaît personnellement et qu'il ne veut que le mieux pour moi. Grâce au séminaire, vous nourrez une relation très sacrée et personnelle avec le Christ. J'ai beaucoup appris sur l'expiation de Jésus-Christ cette année, en méditant réellement sur les Écritures. Et j'ai réellement senti l'Esprit me témoigner qu'il est vraiment mort pour moi et qu'il est mon Sauveur. Et qu'il est la vie et la lumière du monde. Je peux être parfaite et mes péchés peuvent m'être pardonnés grâce à lui. Parfois, il m'arrive encore d'arriver au séminaire avec une attitude qui n'est pas la meilleure, mais je n'en repars jamais déçue d'être venue. Je crois que ce que je préfère, c'est le sentiment qu'il me laisse et la force et le courage qu'il me donne, qui me soutiennent tout le reste de la journée.
En France, on est souvent les seuls membres dans notre lycée, dans notre collège, et c'est pas facile quand on est tout seul. Et d'avoir le séminaire, ça m'a toujours aidé à avoir ce groupe, ce petit groupe, qui pouvait se soutenir, qui pouvait partager des expériences.
Si j'aime le séminaire, c'est parce que ça me permet de me rapprocher en fait de notre Père Céleste.
L'étude des Écritures au séminaire m'a permis d'obtenir un témoignage plus fort de l'Évangile, parce que les enseignements qui sont donnés sont simples et sont vrais.
Ça m'aide chaque jour à me préparer pour ma mission parce que, en plus, le séminaire, ça a vraiment fait grandir mon témoignage. Donc, plus j'ai un témoignage grand, plus c'est facile de le partager avec les gens.
Je peux mieux expliquer mes principes parce que je les comprends mieux moi-même.
Ça demande des sacrifices. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais ça en vaut la peine. Et encore une fois, je dirais que le monde n'est pas facile aujourd'hui, mais que d'avoir cette base, ce soutien dans notre vie, ça va les aider tout au long de leur vie à pouvoir avoir ce roc qui est le Christ.
Je suis Erickson Canayo y Luna. Je vais au séminaire en canoë.
Les cours commencent à 6h du matin.
Je pars de chez moi à 4h30 pour arriver au port à 5h, puis je repars aussitôt. Ça fait une demi-heure, 5h30 environ, et on vient pour apprendre des bonnes choses au séminaire.
Ce qui me plaît dans le séminaire, c'est que chaque jour, nous en apprenons plus sur Jésus-Christ.
Et essayer de surmonter toutes les épreuves de la vie en lisant les Écritures et en priant. Quand ma mère était très malade, elle souffrait beaucoup. Et j'ai commencé à prier. Alors, j'ai demandé de tout mon cœur qu'elle aille mieux le lendemain. Et ça s'est produit, comme je l'avais demandé dans ma prière. J'ai été exaucé. Alors je vois qu'effectivement, Dieu nous aime beaucoup.
C'est une bénédiction d'avoir le séminaire. Nous, les jeunes, d'avoir la paix qu'apporte l'Évangile de Jésus-Christ.
Je m'appelle Jorge-Luis Arimo y Leitch. Le séminaire est une source importante dans l'Évangile. Je me prépare à enseigner l'Évangile à mes amis, à ma famille, ou même quand j'irai en mission. Le séminaire, c'est très bien. Et nous, les jeunes, il nous aide beaucoup à affronter les difficultés et les tentations que le monde nous présente.
Au cours des 100 années du séminaire qui ont passé, d'innombrables vies ont été touchées. Notre tâche a été et sera toujours d'enseigner et d'apprendre que l'Évangile de Jésus-Christ s'instillera dans le cœur de la personne, individuellement, du fils ou de la fille de notre Père Céleste. Notre appel est d'enseigner la vérité éternelle de telle façon qu'un enfant de Dieu puisse choisir de connaître et d'aimer notre Père Céleste et son Fils bien-aimé. Vous, jeunes gens et jeunes filles remarquables, je vous recommande, quelles que soient vos difficultés, d'aller au séminaire. Ayez soif de connaître et de faire ce que le Sauveur a enseigné. Si vous le faites, l'Esprit du Seigneur sera votre compagnon constant et il vous fortifiera en vue des combats qui se présenteront et de la grande œuvre que vous accomplirez dans les familles et dans l'Église. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons tout d'abord le plaisir d'entendre un discours du commissaire à l'éducation de l'Église, Paul V. Johnson, du premier collège des 70. Il présentera aussi le président Packer. Après le discours de Frère Johnson, nous écouterons un chœur combiné d'élèves des séminaires de Cottonwood, Jordan, Caseville, Orem, Riverton, Timview et Woods Cross. Ils chanteront « Pour sonder tes écritures » dans un arrangement et sous la direction de Stephen Chunk, instructeur d'institut à l'Université de Salt Lake. Ils seront accompagnés par Linda Margetts. Puis le président Packer nous adressera la parole. Après son discours, le chœur chantera « Espoir d'Israël ». Puis Khadija Purcell, élève du séminaire de Utah West, Salt Lake City, fera la prière de clôture. Nous allons maintenant écouter Frère Johnson.
Comme nous l'avons vu, le programme du séminaire a été lancé en 1912. Il comptait un instructeur et 70 élèves. Dans le livre de Mormon, nous apprenons que c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées et que c'est par de très petits moyens que le Seigneur réalise le salut de nombreuses âmes. Oui, de grandes choses ont découlé de ces modestes débuts de 1912. Par exemple, ce soir, ici, dans le centre de conférence, il y a 300 fois les 70 élèves du début. Et ce n'est qu'une petite fraction des centaines de milliers de personnes qui regardent cette émission dans le monde entier. Les grandes choses les plus importantes qui ont résulté de ces débuts modestes d'il y a 100 ans ne sont pas la taille du programme, ni le nombre de bâtiments et d'instructeurs, mais les grandes choses qui se sont produites dans la vie de millions d'élèves au cours des années, quand ils ont été disposés à faire de petites choses. Des petites choses comme aller au cours, étudier les Écritures quotidiennement, puis appliquer les principes de l'Évangile dans leur vie quotidienne. Quand ils ont fait ces petites choses, de grandes choses ont été réalisées dans leur vie. Ils se sont rapprochés de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ et ont été grandement bénis d'innombrables manières. Dans la vidéo que nous venons de regarder, nous avons vu que la mère du président Eyring se trouvait dans cette première classe de séminaire il y a 100 ans. Quel lien remarquable! Si nous pouvions voir tous les liens au cours des années, nous aurions une plus grande appréciation pour toutes les choses que la main du Seigneur a faites. Un autre de ces liens remarquables est celui qui existe entre notre orateur de ce soir, Boyd K. Packer, président du Collège des 12 apôtres, et le programme du séminaire. Je vais vous parler un peu du président Packer, puis aborder quelques-uns de ses liens avec le séminaire. Le président Packer est né le 10 septembre 1924 à Brigham City, en Utah. Il a été pilote dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a épousé Donna Edith Smith en 1947. Ils ont 10 enfants, 60 petits-enfants et 78 arrière-petits-enfants. Comme préparation académique, le président Packer a obtenu une licence et une maîtrise de l'Université d'État d'Utah, puis un doctorat de l'Université Brigham Young. Il a été soutenu comme autorité générale en 1961 à l'âge de 37 ans et ordonné membre du Collège des 12 apôtres en avril 1970 à l'âge de 45 ans. Il a été président suppléant de ce collège à partir de juin 1994, puis a été mis à part comme président du Collège des 12 le 3 février 2008. J'ai mentionné que le président Packer avait des liens avec le séminaire. Il a été élève du séminaire à Brigham City, le deuxième à être ouvert. Pendant que le président Packer était militaire dans le Pacifique, la guerre a pris fin et il lui a fallu décider ce qu'il allait faire dans la vie. sur une petite île du Pacifique, il a pris cette décision. Il a décidé d'être enseignant. Et il est devenu un enseignant particulier, instructeur du séminaire. En 1949, il a commencé à enseigner dans le même séminaire où il avait été élève. Il avait pour collègue Abel Esrich, l'un des premiers instructeurs du séminaire de l'Église, embauché peu après l'ouverture de ce premier séminaire, il y a 100 ans. Le président Packer a eu beaucoup d'expérience dans l'instruction des Indiens et a dirigé la mise en place du réseau de séminaires pour les élèves indiens. Il a aussi instauré le Livre de Mormon en tant que cours de séminaire. Après quelques années d'enseignement, il a été superviseur des séminaires pour l'Église. Après son appel comme autorité générale, il a siégé pendant 34 ans au bureau d'éducation de l'Église et au comité exécutif de ce bureau. Chacun de nous a été béni par sa décision de devenir enseignant, qu'il a prise il y a bien des années sur une île minuscule. Sa capacité d'enseigner l'Évangile de Jésus-Christ a manifestement béni non seulement ses élèves quand il enseignait le séminaire, mais également nous tous dans le monde entier, quand nous l'avons entendu enseigner. Grâce à lui, nous comprenons mieux l'Évangile et nous sommes plus engagés à le vivre. Il aimait ses élèves quand il enseignait le séminaire il y a des années, et il aime tous les jeunes de l'Église aujourd'hui. Nous avons ce soir la possibilité d'entendre l'un des grands enseignants de cette dispensation, Boyd K. Packer. Puisse le Seigneur nous bénir, tandis que nous ouvrirons nos oreilles et notre cœur à son message. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous commémorons le centenaire du séminaire de l'Église. Mon fil conducteur partira de ses débuts, quand les ressources de ce programme étaient très limitées. Et il y a longtemps, j'ai voyagé en compagnie de Spencer Kimball. Il occupait le bureau qui est le mien aujourd'hui, celui de président du Collège des 12, et également l'office. Nous rendions visite à des séminaires pour jeunes qui allait dans des écoles indiennes
au Montana et dans le Dakota du Sud. Nous nous sommes réunis dans la maison d'une pièce de sœur Two Dogs. Elle était assise sur le lit, était entourée d'une dizaine de jeunes assis en demi-cercle sur le sol en terre battue. Elle enseignait une leçon de séminaire. Nous sommes loin de ces modestes débuts. Nous avons maintenant 375 000 élèves qui suivent les cours de séminaire dans 143 pays, avec 38 000 bénévoles et instructeurs à plein temps dans le monde entier. L'organisation du séminaire est entretenue à grands frais, accordée généreusement par les apôtres en charge des fonds de l'Église. Nous investissons beaucoup dans notre jeunesse. Nous connaissons votre valeur et votre potentiel. Je parle comme l'un de ces témoins du passé qui veulent vous préparer pour l'avenir. J'ai été formé par Marion Jérôme, conseiller dans la première présidence. Un jour, il m'a dit, « Ne faites pas que leur parler de façon qu'ils comprennent. Parlez-leur de façon qu'ils ne puissent se méprendre. » Il m'a aussi appris que je dois avoir le courage de mes convictions. Vous grandissez en territoire ennemi. Quand vous serez mûr spirituellement, vous comprendrez comment l'adversaire a infiltré le monde qui vous entoure. Il est dans les foyers, les divertissements, les médias, le langage, dans tout ce qui vous entoure. Dans la plupart des cas, sa présence passe inaperçue. La pornographie n'en est qu'un exemple. Je vous parlerai de ce qui a le plus de valeur et qui est le plus désirable. Les Écritures disent, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. » À quoi j'ajoute, « Et avec tout ce que tu possèdes, va de l'avant. » Je n'ai pas de temps à perdre, et vous non plus. Alors écoutez. Le jour où j'ai décidé d'être un instructeur du séminaire est très vif dans ma mémoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'avais à peine 20 ans et j'étais pilote dans l'armée de l'air. J'étais affecté sur la petite île de Yishima. Cette île, petite et isolée, à peu près de la taille d'un timbre-poste, se trouve non loin de la pointe nord d'Okinawa. Un soir d'été, seul, je suis allé m'asseoir sur une falaise pour regarder le coucher du soleil. Je me souviens d'avoir levé les yeux vers la lune et m'être dit, « C'est la même lune qui brille au-dessus de ma maison en Utah. » Je réfléchissais à ce que j'allais faire de ma vie après la guerre, si j'avais assez de chance pour y survivre. Je voulais décider ce que j'allais être. C'est cette nuit-là que j'ai décidé que je voulais être enseignant. Je comprenais que les enseignants apprennent sans cesse. Apprendre est l'un des buts fondamentaux de la vie. J'ai enseigné le séminaire pour la première fois en 1949 à Brigham City. J'avais été élève de ce même séminaire quand j'allais au lycée. Nous étions trois instructeurs, dont le directeur, Abel Wisch et frère Theodore Tuttle. Frère Rich avait ouvert ce séminaire, qui était le deuxième de l'Église en cadre scolaire. Le premier avait été ouvert en 1912. C'était le séminaire de granit à Salt Lake City. J'ai beaucoup appris de Frère Rich. C'était un dirigeant éminent et accompli dans la sphère publique, comme dans l'Église. Il n'hésitait jamais. Il m'a appris à réfléchir à un problème, à déterminer quels étaient les principes de l'Évangile en jeu, puis à prendre une décision. Sa philosophie était tout simplement « Choisis le bien sans te soucier des conséquences ». Frère Rich avait traversé l'histoire du séminaire et en parlait facilement. Grâce à lui, j'ai appris à connaître les vieux de la veille, les vieux de la vieille, comme il les appelait. Quand j'y repense, un flot de souvenirs surgit. Je me souviens de William Barrett, qui a ouvert le séminaire de Uinta Basin. L'été, il allait à pied de ville en ville pour recruter des élèves pour sa classe. Le premier enfant des Barrett est né et a été enterré à cet endroit. Frères et sœurs Barrett sont allés au cimetière, assis sur le siège arrière d'une voiture. Sur ses genoux, il tenait le petit cercueil de bois qu'il avait fabriqué pour son fils. Frère Theodore Tuttle et moi avons aussi servi ensemble en tant que superviseurs des séminaires et instituts. Et plus tard, nous sommes devenus autorité générale ensemble. Frère Tuttle avait été lieutenant dans les marines. Au cours de la bataille d'Iwo Jima, il est retourné sur le navire pour prendre un grand drapeau. Sur le rivage, il l'a donné à un coureur qui l'a emporté au sommet du mont Sirabashi et l'a placé dans les pages de l'histoire. Vous vous souvenez peut-être de la célèbre photo de ce drapeau hissé par des militaires. Cet événement a été plus tard sculpté dans du bronze en souvenir à Washington, D.C. Elijah Eakin faisait aussi partie des premiers instructeurs. Il est envoyé à Bighorn Basin, dans le Wyoming, pour y ouvrir le séminaire. Il n'était pas le bienvenu. Ils avaient épuisé son prédécesseur, une classe très difficile. Les gens ne voulaient pas de lui là-bas et pensaient le faire fuir, comme il l'avait fait pour tant d'autres avant lui. Il a même reçu des menaces de mort. Le patriarche est venu lui donner une bénédiction et la promesse que sa vie serait épargnée. S'appuyant sur cette bénédiction, frère Eakin a déposé le revolver à six coups qu'il portait tous les jours en cours et le séminaire a été implanté là-bas. Je me rappelle aussi Wiley Sessions, grand et souriant, qui a ouvert le premier institut de religion à Moscou, en Idaho, en 1926. Il y avait à l'origine trois cours enseignés au séminaire, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église. J'ai eu l'honneur d'ajouter une classe matinale sur le livre de Mormon. Le livre de Mormon ne faisait pas précédemment partie du programme parce que les élèves n'en recevaient pas la validation pour le diplôme de fin d'études secondaires. J'étais revenu de la guerre avec le témoignage du livre de Mormon et la compréhension de la manière dont le don du Saint-Esprit fonctionne. Les premiers principes et ordonnances de l'Évangile sont, premièrement, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le repentir. Troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission des péchés. Quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek confèrent ce don à chaque membre baptisé de l'Église, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Je vais vous citer un verset intéressant du livre de Mormon concernant les anges et le Saint-Esprit. Un groupe de personnes était venu voir Néphi, car elle se demandait ce qu'elle devait faire après le baptême. Il a dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit que lorsque vous auriez reçu le Saint-Esprit, vous pourriez parler la langue des anges ? Or, comment pourriez-vous parler dans la langue des anges, si ce n'est par le pouvoir du Saint-Esprit ? Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. C'est pour cela que je vous ai dit, faites-vous un festin des paroles du Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. Très tôt dans mes années d'enseignement, j'ai eu un contact personnel avec Harold Billy. Je me rappelle m'être trouvé avec ma femme à l'extérieur de la maison d'Eberhard Sundell, conseiller dans notre présidence de Pieux. J'étais alors greffier adjoint de Pieux. Nous étions là pour déjeuner entre les sessions de notre conférence de pieux. Harold Billy est sorti de la maison et s'est dirigé vers moi. J'étais sans voix. J'étais en train de parler avec un apôtre. J'ai parlé avec plusieurs autres apôtres depuis. Harold Billy a déclaré, en désignant la maison des Sundell, en faisant référence à la présence de pieux, « Ici trouvent de grands hommes. Apprenez d'eux et vous ne vous égarerez jamais. » J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Harold Billy a dit, « Que Dieu vous bénisse, mon garçon. Un jour, vous aurez de grandes responsabilités dans cette église. » Je pense qu'il disait cela à beaucoup de garçons, mais cela a eu un effet profond sur moi. Je me souviens de ce que j'ai ressenti en sa présence. Quelques années plus tard, je m'adressais à des instructeurs du séminaire de Salt Lake City. J'ai reçu un coup de téléphone me disant de me rendre immédiatement au bureau du président McKay. C'était le samedi matin, la conférence générale. Je me suis rendu rapidement au bureau de frère McKay. Un préposé à l'accueil m'a demandé « Que faites-vous ici ?» J'ai répondu « Le président McKay m'a demandé de venir. » Il a dit « Oh, c'est ce qu'ils disent tous. » Puis il a ajouté « Asseyez-vous là. » Et je me suis assis. Peu de temps après, U.B. Brown, conseiller dans la première présidence, est venu dans le couloir et a demandé « Que faites-vous ici ? Pourquoi êtes-vous assis là ?» J'ai répondu « On ne m'a pas laissé entrer. » Il a répondu « Je vais arranger ça. » Il m'a introduit dans le bureau du président McKay.
Je me suis assis de l'autre côté de son bureau et il m'a fait signe d'en faire le tour. Il y avait une chaise lui faisant face derrière son bureau. Le président McKay m'a pris les deux mains et m'a appelé comme assistant du collège des 12 apôtres. C'était le plus proche que j'ai jamais été d'un président de l'Église. Quelques minutes plus tard, il a regardé sa montre et a dit « Nous allons devoir aller au tabernacle. Sœur Parker devra simplement apprendre cette nouvelle sur les ondes. » Et c'est ce qui s'est passé. 50 ans et plus de 4 millions de kilomètres à voyager dans le monde entier plus tard. Beaucoup de kilomètres. 4 millions. J'éprouve un intérêt grandissant pour le programme du séminaire et de l'Institut, et plus particulièrement pour les jeunes. Vous avez appris toute votre vie ce qui concerne le don du Saint-Esprit, mais l'enseignement a ses limites. Vous pouvez, et en fait, vous devez faire le reste du chemin seul pour découvrir en vous-même comment le Saint-Esprit peut être une influence directrice et protectrice. Le processus est le même, qu'il s'agisse d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Il faut toute une vie pour découvrir comment le Saint-Esprit opère dans sa vie. Quand on a fait soi-même cette découverte, on peut vivre en territoire ennemi sans être trompé ou détruit. Aucun membre de l'Église, et cela signifie chacun de vous, ne fera jamais d'erreur grave sans être au préalable averti par les murmures du Saint-Esprit. Parfois, quand on commet une erreur, on se dit ensuite, « Je savais que je n'aurais pas dû faire cela. Je sentais que ce n'était pas juste, ou bien, je savais que j'aurais dû faire cela, mais je n'ai simplement pas eu le courage d'agir. » Ces impressions sont des tentatives du Saint-Esprit pour vous orienter vers le bien ou pour vous avertir et vous éloigner d'un danger. Le Saint-Esprit se retire si vous vous livrez à des pratiques immorales ou si vous emplissez votre esprit de choses telles que celles qui viennent à l'esprit lorsqu'on regarde la pornographie. Vous pouvez apprendre rapidement à suivre les murmures du Saint-Esprit. Le pouvoir de révélation qui vient du don du Saint-Esprit opère selon les principes de la justice. Il y a des choses que vous ne devez pas faire pour que les canaux de communication restent ouverts. Vous ne pouvez pas mentir ou tricher ou voler ou agir de manière immorale et maintenir ces canaux ouverts sans interruption. N'allez pas dans des endroits où l'ambiance freine la communication spirituelle. Vous devez apprendre à rechercher le pouvoir et la direction qui vous sont accessibles, puis à suivre cette voie, quelles que soient les conséquences. Premièrement, mettez le mot « prière » sur votre liste de choses à faire. La plupart du temps, vos prières seront silencieuses. On peut penser une prière intérieurement. Les parents et les instructeurs se font du souci pour le moment où les enfants ou les jeunes seront livrés eux-mêmes. Vous n'êtes jamais hors de portée de l'influence de notre Père Céleste. Il est votre Père et il est toujours là. Il est parfois difficile aux jeunes de se confier à leurs parents. Vous pouvez toujours avoir une ligne de communication directe avec votre Père Céleste. Ne laissez pas l'adversaire vous convaincre que personne n'écoute à l'autre bout. Vos prières sont toujours entendues. Vous n'êtes jamais seul. Prenez soin de votre corps. Soyez pur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Joseph Smith, le prophète, a reçu la parole de sagesse par révélation. Elle se résume à quelques mots. Pas de thé, de café, d'alcool, ni de tabac. On ne savait pas à l'époque que ces choses étaient mauvaises pour la santé et pouvaient créer une dépendance. On ne comprenait pas alors la terrible plaie de la dépendance à la drogue. Lisez attentivement les promesses énoncées dans la section 89 des Doctrines et Alliances. Tous les saints qui se souviennent de garder et de pratiquer ces paroles, marchant dans l'obéissance,
au commandement, recevront la santé en leur nombril et de la moelle pour leurs os. Et ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissances. Oui, des trésors cachés. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne faibliront pas. La parole de sagesse ne promet pas une santé parfaite, mais elle promet que vos récepteurs spirituels seront fortifiés. Et il est certain que votre corps, le moment venu, vieillira et finira par devenir inhabitable. Je peux vous en parler. Alors, votre esprit sera obligé de le quitter. C'est ce qu'on appelle la mort. Ne vous faites pas de tatouages ou de choses semblables qui abîment votre corps. Ne faites rien qui vous déshonorerait, vous, vos parents ou votre Père Céleste. Votre corps a été créé à son image. Les gens indignes peuvent être mal à l'aise en présence de quelqu'un de vertueux. Ne soyez pas gênés par les moqueries que peuvent dire les gens qui vous entourent. Beaucoup finiront par vous comprendre et vous respecter pour vos principes. Je vais maintenant vous parler, à la manière directe de Marianne Jérôme-Née, d'un autre sujet. Il y a une chose que j'ai apprise au sujet des jeunes durant toutes ces années. Non seulement on peut vous dire la vérité, mais vous voulez la connaître. Vous savez que le sexe masculin ou féminin a été défini dans le monde prémortel. L'esprit et le corps sont l'âme de l'homme. Les frères se font beaucoup de soucis à ce sujet, comme pour tous les sujets liés à la moralité. Quelques-uns d'entre vous ont pu ressentir, ou on a pu leur dire, qu'ils étaient nés avec des sentiments troublants et qu'ils n'étaient pas coupables s'ils succombaient à ces tentations. Sur le plan de la doctrine, nous savons que si cela était vrai, votre libre arbitre aurait été effacé, et cela ne peut pas se produire. Vous avez toujours le choix de suivre l'inspiration du Saint-Esprit et de mener une vie moralement pure et chaste, une vie vertueuse. Gordon B. Hinckley a dit ce qui suit lors d'une conférence générale. Des gens nous demandent notre position vis-à-vis de ceux qui se considèrent comme des homosexuels. Ma réponse est que nous les aimons en tant que fils et filles de Dieu. Ils ont peut-être certaines inclinations qui peuvent être puissantes et difficiles à maîtriser. La plupart des gens ont des inclinations d'une sorte ou d'une autre à divers moments. S'ils ne cèdent pas à ces inclinations, ils peuvent aller de l'avant, comme le font tous les autres membres de l'Église. S'ils enfreignent la loi de chasteté et les règles morales de l'Église, alors ils sont passibles d'une action disciplinaire de l'Église, tout comme le sont les autres. Nous voulons aider ces personnes, les fortifier, les soutenir face à leurs problèmes et les aider à surmonter leurs difficultés. Mais nous ne pouvons pas rester à ne rien faire s'ils se conduisent de manière immorale, s'ils essayent de prôner, de défendre et de vivre un prétendu mariage entre personnes du même sexe. Le permettre serait faire peu de cas du fondement important et sacré du mariage ordonné de Dieu et de son objectif même, qui est d'élever des enfants dans une famille. Le président Hinckley parlait pour l'Église. Le premier don qu'Adam et Ève ont reçu fut le libre arbitre. Tu peux choisir par toi-même, car cela t'est donné. Vous avez ce même libre arbitre. Utilisez-le avec sagesse. Pour refuser de suivre des impulsions impures ou des tentations impies qui vous viendraient à l'esprit. Ne le faites pas, et si vous l'avez déjà fait, sortez-en et revenez. Refusez-vous toute impiété. Ne badinez pas avec les pouvoirs de procréation de votre corps, seul ou avec des gens de n'importe quel sexe. C'est le principe de l'Église et ne changera pas. En mûrissant, vous aurez la tentation d'expérimenter ou d'explorer des activités immorales. Ne le faites pas. Il est naturel de résister aux restrictions de toutes sortes. Je suis bien conscient que vous n'aimez pas qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Mais pour vous, je vous supplie de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la surmonter, aussi difficile que cela puisse être. Le mot-clé est « discipline ». Le mot discipline vient du mot disciple ou élève. Soyez un disciple, élève du Sauveur, et vous serez en sécurité. Un ou deux d'entre vous peuvent penser, je suis déjà coupable de telle ou telle faute grave. Il est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On vous enseignait chez vous et au séminaire l'expiation de Jésus-Christ. L'expiation est comme une gomme, un effaceur. Elle peut effacer la culpabilité et les effets de ce qui vous donne un sentiment de culpabilité. La culpabilité est une souffrance spirituelle. Ne souffrez pas de douleurs chroniques. Débarrassez-vous-en. Éliminez-la. Repentez-vous. Et si nécessaire, repentez-vous encore et encore, jusqu'à ce que vous, non l'ennemi, ayez le contrôle de votre vie. La vie se révèle être une succession d'épreuves et d'erreurs. Ajoutez « me repentir souvent » à votre liste de choses à faire. Cela vous apportera une paix durable qu'on ne peut acheter à aucun prix mortel. La compréhension de l'expiation peut être la vérité la plus importante que vous puissiez apprendre dans votre jeunesse. Si vous fréquentez des gens qui vous abaissent au lieu de vous édifier, arrêtez et changez de fréquentation. Peut-être serez-vous seuls et solitaires parfois. Il faut peut-être alors se poser cette question importante. Quand vous êtes seul, êtes-vous en bonne compagnie? Si vous faites quelque chose que vous savez être mal, arrêtez. Arrêtez maintenant. Vous dépêtrez d'une habitude que vous avez laissée vous lier, peut-être difficile. Mais vous en avez le pouvoir. Ne désespérez pas. Joseph Smith, le prophète, enseignait, « Tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez résister à la tentation. Il est peu probable que vous aurez une rencontre personnelle avec l'adversaire. Il ne se montre pas en personne. Mais même s'il se présentait en personne à vous pour vous éprouver et vous tenter, vous auriez un avantage. Vous pouvez affirmer votre libre arbitre et il devra vous laisser tranquille. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de garantie que la vie soit facile ou juste. C'est là l'épreuve. Quand vous choisirez de vous repentir, vous recevrez un témoignage et vous saurez que l'Évangile est vrai. Vous saurez ce que le Seigneur voulait dire quand il a promis. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Et il ne s'en souviendra plus. Puis ce beau verset, « Moi, le Seigneur, je ne me souviens plus de vos péchés. » Je répète, « Et ne se souvient plus de vos péchés. » Alors pourquoi est-ce que vous vous en souvenez? Vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire. Votre vie est spéciale. Vous êtes exceptionnel. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que vous êtes né à une époque et en un lieu où l'Évangile de Jésus-Christ peut entrer dans votre vie grâce aux enseignements et aux activités de votre foyer et de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Elle est, comme le Seigneur lui-même l'a dit, la seule Église vraie et vivante sur la face de toute la terre. Nous pourrions ajouter d'autres choses à la liste, mais vous savez ce que vous devez et ne devez pas faire. Vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'est pas nécessaire qu'on vous commande en toute chose. Ne gaspillez pas ces années d'instruction du séminaire. Tirez parti des grandes bénédictions que vous avez d'apprendre la doctrine de l'Église et les enseignements des prophètes. Apprenez ce qui a le plus de valeur. Cela vous bénira, vous être vos postérités, pendant de nombreuses générations. Alma a commandé à son fils et l'amant, « Oh, souviens-toi, mon fils, et apprends la sagesse dans ta jeunesse. » Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont, dans une grande mesure, tentés de renoncer à leur libre arbitre ou à leur indépendance et de les remplacer par l'expression « avoir droit ». Ils s'attendent à ce que tout leur soit fourni gratuitement. Si cela fait partie de votre mode de pensée, débarrassez-vous-en. Si vous voulez être heureux, vous devriez payer le prix par l'obéissance. Les restrictions que vous rencontrez contre les mauvais agissements sont une énorme protection pour vous. Quand nos enfants étaient petits, il leur arrivait de demander « Est-ce que je dois le faire ?» La réponse est non, tu ne dois pas. Tu vas le faire. Une fois que vous aurez acquis la maîtrise de vous-même, il ne sera pas nécessaire qu'on vous dise quoi faire tout le temps. Vous trouverez votre voie et saurez quelle est votre place. Certains d'entre vous tâtonnent et ont du mal à trouver ce qu'ils feront. Le métier que vous choisirez pour gagner votre vie n'a pas réellement d'importance. Ce qui compte le plus, c'est que vous saurez et qui vous serez. Vous disposerez de directives pour le savoir. Rappelez-vous que l'Esprit est toujours avec vous pour vous instruire. Dans peu d'années, vous serez marié, aurez des enfants. Votre mariage sera scellé dans le temple. Nous prions pour que vous trouviez le moment venu installé en sécurité dans une paroisse ou une branche de famille. Vous vous rendrez compte que vous apprendrez plus de vos enfants qu'ils n'en apprendront de vous. Ne craignez pas l'avenir. Ne craignez pas ce qui vous attend. Avancez avec espoir et foi. N'oubliez pas le don divin du Saint-Esprit. Apprenez à vous laisser instruire par lui. Apprenez à le chercher. Apprenez à conformer votre vie à ce qu'il vous dit. Apprenez à toujours prier au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur vous accompagnera et vous serez béni. Le poète a écrit « La nuit est grandeur pour la poussière que nous sommes. Dieu est tout près de l'homme. Quand le devoir murmure tout bas, tu dois. » La jeunesse répond « Je peux. » Nous avons une foi profonde en vous. Je vous témoigne que Jésus est le Christ. Témoignage obtenu dans ma jeunesse. Vous n'êtes pas plus différent des autres que je ne le suis. Vous avez autant droit à ce témoignage que n'importe qui d'autre. Vous l'obtiendrez si vous le recherchez. Je demande au Seigneur de vous bénir, qu'il vous donne les bénédictions d'avoir ce témoignage, d'être guidé vers un avenir que vous rendrez heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh, Israel.
Notre cher Père Céleste, nous venons de te prier à la fin de cette réunion avec beaucoup de gratitude. Nous sommes reconnaissants pour ce programme du séminaire et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Nous te remercions pour le discours de Frère Packer que nous avons écouté ce soir. Accorde-nous ton esprit pour qu'il nous guide et que nous puissions rentrer chez nous avec ses paroles dans notre cœur. Encore une fois, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que nous avons. Nous t'aimons, nous reconnaissons tes bienfaits et nous sommes reconnaissants pour ton Fils. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.